Europe 1.
Le 4 mai 1897, le bazar de la charité prenait feu. Cette institution dédiée aux œuvres de bienfaisance était la pierre d'angle de la charité d'initiative privée développée par la noblesse. Elle réunissait la crème de l'aristocratie parisienne. Ce jour-là, le terrible incendie a fait près de 130 victimes. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Comment un tel incendie a-t-il été possible ? Quelles en ont été les conséquences pour la bonne société parisienne ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode, à écouter en deux parties. Première partie, les visions d'Henriette Couédon. En cette matinée du 21 mars 1897, comme presque chaque jour depuis plusieurs mois, des dizaines de personnes font la queue devant le 40 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. En temps normal, le concierge ouvre le grand portail d'entrée de l'immeuble vers 9h, mais il est 10h passées et les portes sont toujours fermées. On s'inquiète, on s'impatiente. Une porte s'ouvre enfin. Un homme sort de l'immeuble. Il s'agace et renvoie les visiteurs. Celle que tous attendent, la voyante, ne les recevra pas aujourd'hui. Elle est en déplacement. La foule proteste. Il referme rapidement la porte. La voyante en question, c'est Henriette Couédon. Elle a 24 ans et depuis qu'elle est enfant, elle est prise de visions. À chaque fois, c'est le même phénomène étrange et soudain qui se produit lorsqu'elle se trouve en présence d'invités. Elle regarde le ciel, joint ses mains, et une voix qui n'est pas la sienne sort de sa bouche pour prédire l'avenir. Cette voix, ce serait celle de l'archange Gabriel, le messager de Dieu, qui vient annoncer d'épouvantables catastrophes. Henriette Couédon décrit la scène changée en fleuve de sang. Elle voit Paris en flammes. Elle prédit l'extermination des Français dans la guerre et encore des épidémies où la peau des malades sera tachée de pustules sanguinolentes. Au fil des mois, le tout Paris se presse au 4e étage de l'immeuble où Henriette Couédon habite avec sa mère. On a hâte de l'interroger. Surtout, les gens veulent connaître le destin de la France, les changements de gouvernement ou même simplement le temps qu'il va faire. Mais par la bouche d'Henriette, l'archange Gabriel se montre impitoyable. À chaque fois, il annonce les pires fléaux. Un jour, Henriette Couédon et sa mère reçoivent même la visite du prince Henri d'Orléans. Fébrile, il lui demande s'il va monter sur le trône de France. Question aussitôt tranchée sur un ton brutal, l'archange répond « pas du tout ». Entre autres visions, Henriette Couédon a aussi révélé la cachette d'un trésor familial. Elle a aussi annoncé à un prêtre son changement de diocèse et elle a prédit le scandale de Panama. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France de cette fin de siècle est habituée à ce genre de vision. Partout en Europe même et jusqu'en Russie, les prophètes de malheur se sont multipliés depuis les années 1810. On se rend partout où ils se trouvent pour les consulter. Les princes de sang font la queue au milieu du tout venant pour interroger l'oracle sur son destin. Deux exemples parmi d'autres, tandis que Louis XVIII reçoit terrorisé les confidences d'un paysan tout crotté venu lui annoncer les prédictions funestes d'un ange qui serait coiffé d'un chapeau claque, Nicolas II de Russie rend visite à une certaine Parasève Pacha et attend fébrilement de voir si cette prophétesse que toute la Russie vénère sucrera ou non son thé, signe de salut pour le tsar ou signe de sa perte. Nombre de ces prophètes se montrent grossiers, nonchalants, voire vulgaires, sans que la foi en leur verdict ne soit le moins du monde ébranlée. En France, cet engouement a commencé en 1846 à la Salette, en Isère. La Vierge Marie serait apparue à deux petits bergers. En pleurant, elle a dénoncé le clergé de l'Église comme un cloaque d'impureté. Il y a eu aussi, bien sûr, les apparitions de Lourdes. En réalité, ajouté à l'instabilité politique de la France et au flou religieux qui règne dans le pays depuis la Révolution, ce maelstrom mystique engendre une déferlante de manifestations surnaturelles qui n'épargne aucune couche de la société. La France monarchiste et catholique n'en finit pas de prétendre ressusciter au milieu des sarcasmes de la République. À cette dernière, qui dit vouloir apporter le bonheur par la raison, s'oppose toujours la vieille croyance médiévale qui persiste à n'offrir d'avenir que dans la foi en Dieu. Depuis le début de l'année 1897, le monde aristocratique parisien ne vit plus que pour un événement beaucoup plus terre-à-terre et qui sera bientôt au centre de tous les regards. L'inauguration prévue pour les premiers jours de mai du nouvel édifice conçu pour recevoir le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité vise à rassembler dans un même lieu des biens cédés par les aristocrates aux œuvres de charité. Cette institution a été créée par le richissime Henri Blount et le baron de Macao 10 ans plus tôt, en 1885. Elle était initialement située dans le quartier Saint-Honoré à Paris, mais doit bientôt ouvrir ses portes, rue Jean Goujon, dans un espace plus grand. Qu'on ne se méprenne pas sur le choix de ces quartiers actuellement connus pour leur richesse. À l'époque, la rue Saint-Honoré était à la fois un lieu commerçant, bien sûr, mais aussi, et pour cette même raison sans doute, un lieu de haute mendicité. Les enfants des classes ouvrières, par centaines, occupaient les trottoirs en quête de quelques sous pour subvenir aux besoins de leur famille. Le Paris de l'aristocratie, concentré entre la Madeleine et le faubourg Saint-Germain, représentait une parcelle infime du Paris d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le bazar a récolté en 16 ans plus de 7 millions de francs or de bénéfices. C'est colossal, c'est un vrai succès. Cette véritable coopérative d'œuvres de bienfaisance est devenue la seule institution privée capable d'apporter un complément de don aux aides encore très inégales apportées par l'État. Orphelinats, sociétés d'aveugles, hôpitaux, sociétés de secours aux blessés de guerre, les associations se comptent par dizaines qui ne peuvent vivre sans le soutien du Bazar de la Charité. Parmi les donataires, on trouve Madame de Maillet. Elle est la responsable du Cercle catholique d'ouvriers de Paris, une association qui veut rechristianiser le monde ouvrier. Le 21 mars 1897, pour concrétiser les promesses de dons, elle décide de réunir un certain nombre d'aristocrates et elle leur réserve une surprise de choix. La présence chez elle de la célèbre voyante Henriette Couédon. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas recevoir la foule qui l'attendait devant chez elle. Elle se trouve ce jour-là chez Madame de Maillet. Au centre de la grande salle de l'hôtel particulier de Madame de Maillet, l'assemblée est désormais au complet. L'hôtesse a prié Henriette Couédon de s'asseoir sur un fauteuil. La jeune femme s'installe. Comme à son habitude, elle ne jette qu'un regard oblique sur les convives présents. L'étonnante stupidité de son regard n'a échappé à personne, ni ses sourcils noirs et grossiers, ni cette dentition chaotique qui apparaît derrière ses lèvres molles qu'elle garde toujours entr'ouvertes. En réalité, parmi les messieurs qui, par courtoisie, ont posé leur haute forme sur leurs genoux, rares sont ceux qui attendent de la voyante une révélation extraordinaire. Oui, bien sûr, elle a parfois prédit des choses étonnantes. Mais ces oracles ne sont souvent que des redites du livre de l'Apocalypse, des paraphrases d'évangiles. Et lorsqu'elle sort des sentiers de la Bible, elle se fait, tiens donc, le héros de la royauté déchue. Serait-elle payée par les monarchistes? Tout à coup, la voyante se lève, elle vient d'avoir une vision.
L'archange Gabriel me parle et j'entends sa voix. Je retiens ce qu'il m'adresse à moi, j'oublie, ou plutôt j'ignore ce qu'il me fait dire aux autres. Quand l'ange parle par ma bouche, je ne suis qu'un instrument, je disparais, je suis nul. L'archange a dit qu'il était le messager de Dieu envoyé pour annoncer aux hommes les maux qui les menacent et prédire à la France le retour à la royauté. L'ange m'a dit que j'aurai des épreuves à traverser, un véritable calvaire. Si je reçois de l'argent, mes dons me seront retirés, car les dons de Dieu ne se vendent pas. »
Puis la jeune femme se rassoit. Un frisson parcourt la salle et des chuchotements s'élèvent dans l'audience. Madame de Maillé intervient et réclame le silence. La comtesse présente les principaux événements qui vont ponctuer l'ouverture du bazar le 3 mai suivant. Les visiteurs pourront notamment se promener dans un décor de l'Opéra de Paris, une ruelle du Paris médiéval entièrement reconstituée. Et puis, un cinématographe sera mis à disposition. Pour 50 centimes, on pourra voir les fameuses images animées créées par les frères Lumière. Elles seront spécialement projetées pour l'événement. Fantastique ! L'audience est conquise par la présentation. Mais soudain, une voix s'élève à nouveau, douce et tremblante à la fois. Henriette Couédon s'est dressée, la tête levée vers le plafond, les mains jointes sur la poitrine dans un geste de prière. Tout le monde se tait. Madame de Maillé, qui se tient debout près de la voyante, fait quelques pas en arrière, prudemment, quand retentissent ces mots.
« Près des Champs-Élysées, je vois un endroit pas élevé, qui n'est pas pour la piété, mais qui en est approché, dans un but de charité, qui n'est pas la vérité. »
Dans l'assemblée se trouve le poète cubain José María de Heredia. Il s'est invité par simple curiosité. Il lève un sourcil dubitatif, mais l'assemblée, elle retient son souffle.
« Je vois le feu s'élever et les gens hurler, des chairs grillées, des corps calcinés, j'en vois comme par pelletée. »
Ah, puis la voyante finit par se taire, un brouhaha indescriptible s'élève alors dans le salon. José María de Heredia en profite pour glisser.
« C'est impressionnant, mais Dieu, quelle mauvaise poésie !»
Quant à Madame de Maillé, elle est bouleversée. Elle veut en savoir plus sur cette sombre prédiction et presse Henriette Couédon d'en dire davantage. La voyante se contente d'ajouter nonchalamment que toutes les personnes présentes avec elle aujourd'hui seront sauvées. La belle affaire. Une fois la réunion terminée, la plupart vont oublier la sinistre prédiction. Au fond, nul n'ignore que ces prétendues visions sont souvent le fruit d'un esprit dérangé. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie de médecins est apparue, les aliénistes, qui s'occupent des patients dits « aliénés ». Dans les hôpitaux, on trouve désormais des dizaines de cas comme celui de cette Henriette Couédon. On parle de délire hystérique, de mélancolie. L'aristocratie parisienne va donc vite tourner la page de cet étrange incident chez Madame de Maillé. D'autant que l'excitation augmente, l'ouverture du bazar approche. Pour écouter la seconde partie de ce récit consacré au bazar de la charité, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. Et pour ne rater aucun épisode d'Au cœur de l'histoire, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, par exemple. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.